Sans famille, deuxième partie, chapitre 4, l'inondation. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes dans la mine. « Eh bien, dit l'oncle Gaspard, as-tu été content du garçon, magister ?»« Mais oui, il a des oreilles et j'espère que bientôt il aura des yeux. » « En attendant qu'il ait aujourd'hui des bras, » dit l'oncle Gaspard. Et il me remit un coin pour l'aider à détacher un morceau de houille qu'il avait entamé par-dessous, car les piqueurs se font aider par les rouleurs. Comme je venais de rouler ma benne au puits de Sainte-Alphonsine pour la troisième fois, j'entendis du côté du puits un bruit formidable, un grondement épouvantable, tel que je n'avais jamais rien entendu de pareil depuis que je travaillais dans la mine. Était-ce un éboulement? Un effondrement général? J'écoutais. Le tapage continuait en se répercutant de tous côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon premier sentiment fut l'épouvante, et je pensais à me sauver en gagnant les échelles. Mais on s'était déjà moqué de moi si souvent pour mes frayeurs que la honte me fit rester. C'était une explosion de mine, une benne qui tombait dans le puits, peut-être tout simplement des remblais qui descendaient par les couloirs. Tout à coup, un peloton de rats me passa entre les jambes en courant, comme un escadron de cavalerie qui se sauve. Puis il me sembla entendre un frôlement étrange contre le sol et les parois de la galerie avec un clapotement d'eau. L'endroit où je m'étais arrêté étant parfaitement sec, ce bruit était inexplicable. Je pris ma lampe pour regarder et la baissai sur le sol. C'était bien l'eau. Elle venait du côté du puits, remontant la galerie. Ce bruit formidable, ce grondement, était donc produit par une chute d'eau qui se précipitait dans la mine. Abandonnant ma benne sur les rails, je courus au chantier. Je n'avais pas fait 10 pas que j'aperçus le magister qui descendait aussi dans la galerie pour se rendre compte du bruit qui l'avait frappé. « L'eau dans la mine !» cria l'oncle Gaspard. « La divonne a fait un trou ? » dis-je. « Es-tu bête ? Sauve-toi ! » cria le magister. Le niveau de l'eau s'était rapidement élevé dans la galerie. Elle montait maintenant jusqu'à nos genoux, ce qui ralentissait notre course. Le magister se mit à courir avec nous, et tous trois nous crions en passant devant les chantiers. « Sauvez-vous ! L'eau est dans la mine !» Le niveau de l'eau s'élevait avec une rapidité furieuse. Heureusement, nous n'étions pas très éloignés des échelles, sans quoi nous n'aurions jamais pu les atteindre. Jamais les 40 mètres qui séparent le deuxième niveau du premier ne furent franchis avec pareille rapidité. Mais avant d'arriver au dernier échelon, un flot d'eau nous tomba sur la tête et noya nos lampes. C'était une cascade. Nous sommes perdus. Dit le magister d'une voix presque calme. « Fais ta prière, Rémi. » Mais, au même instant, dans la galerie, parurent 7 ou 8 lampes qui accouraient vers nous. L'eau nous arrivait déjà aux genoux. Sans nous baisser, nous la touchions de la main. Ce n'était pas une eau tranquille, mais un torrent, un tourbillon qui entraînait tout sur son passage et faisait tournoyer des pièces de bois comme des plumes. Le même mot qui avait échappé au magistère, aux hommes qui accouraient vers nous, échappa aussi.
« Nous sommes perdus !»
Ils étaient arrivés jusqu'à nous. « Il faut nous jeter dans une remontée, » dit le magistère. « Et après, la remontée ne conduit nulle part. » Se jeter dans la remontée, c'était prendre en effet un cul-de-sac. Mais nous n'étions pas en position d'attendre et de choisir. Il fallait ou prendre la remontée et avoir ainsi quelques minutes devant soi, c'est-à-dire l'espérance de se sauver, ou continuer la galerie avec la certitude d'être englouti, submergé avant quelques secondes. Le magistère à notre tête, nous nous engageâmes donc dans la remontée. 2 de nos camarades voulurent pousser dans la galerie, et cela, nous ne les revîmes jamais. Alors, reprenant conscience de la vie, nous entendîmes un bruit qui assourdissait nos oreilles, depuis que nous avions commencé à fuir et que cependant nous n'avions pas encore entendu. Des éboulements, des tourbillonnements et des chutes d'eau, des éclats de boisage, des explosions d'air comprimé. C'était dans toute la mine un vacarme épouvantable qui nous anéantit. Depuis que nous étions dans la remontée, le magister n'avait pas parlé, car son âme était au-dessus des plaintes inutiles. « Les enfants, dit-il, il ne faut pas vous fatiguer. Si nous restons ainsi cramponnés des pieds et des mains, nous ne tarderons pas à nous épuiser. Il faut nous creuser des points d'appui dans le schiste. » Le conseil était juste, mais difficile à exécuter, car personne n'avait emporté un pic. Tous nous avions nos lampes, aucun de nous n'avait un outil. « Avec les crochets de nos lampes, » continua le magister. Et chacun se mit à entamer le sol avec le crochet de sa lampe. La besogne était mal aisée, la remontée étant très inclinée et glissante. Mais quand on sait que si l'on glisse, on trouvera la mort au bas de la glissade, cela donne des forces et de l'adresse. En moins de quelques minutes, nous eûmes tous creusé un trou de manière à y poser notre pied. Cela fait, on respira un peu et l'on se reconnut. Nous étions sept, le magister, moi près de lui, l'oncle Gaspard, trois piqueurs nommés Pagès, Comperiou et Bergounou, et un rouleur, Carori. Les autres ouvriers avaient disparu dans la galerie. Les bruits dans la mine continuaient avec la même violence. Il n'y a pas de mots pour rendre l'intensité de cet horrible tapage. Les détonations du canon se mêlant au tonnerre et à des éboulements n'en eussent pas produit un plus formidable. Effarés, affolés d'épouvante, nous nous regardions, cherchant dans les yeux de notre voisin des explications que notre esprit ne nous donnait pas. Pour dominer le vacarme, nous parlions à pleine voix, et cependant notre voix était sourde. « Parle un peu, » me dit le magister. « Que voulez-vous que je dise ?»« Ce que tu voudras, parle seulement, » dit le premier mot venu. Je prononçai quelques paroles. « Bon, plus doucement maintenant, c'est cela, bien. »« Perds-tu la tête, magister ?» dit Pagès. « Deviens-tu fou de peur? Crois-tu que tu es mort? Je crois que l'eau ne nous gagnera pas ici et que si nous mourons, au moins nous ne serons pas noyés. Ça veut dire, magister? Regarde ta lampe. Eh bien, elle brûle. Comme d'habitude. Non, la flamme est plus vive, mais courte. Est-ce qu'il y a du grisou? Non, dit le magister. Cela non plus n'est pas à craindre. Pas plus de danger par le grisou que par l'eau qui maintenant ne montera pas d'un pied. Ne fais donc pas le sorcier. Je ne fais pas le sorcier. Nous sommes dans une cloche d'air et c'est l'air comprimé qui empêche l'eau de monter. La remontée fermée à son extrémité fait pour nous ce que fait la cloche à plongeurs. L'air refoulé par les eaux s'est amoncelé dans cette galerie. Et maintenant, elle résiste à l'eau et la refoule. « Nous sommes donc sauvés !» dit Carori. « Sauvés ? Je n'ai pas dit ça. Nous ne serons pas noyés. Voilà ce que je vous promets. Ce qui nous sauve, c'est que la remontée étant fermée, l'air ne peut pas s'échapper. Mais c'est précisément ce qui nous sauve qui nous perd en même temps. L'air ne peut pas sortir, il est emprisonné. » Mais nous aussi, nous sommes emprisonnés. Nous ne pouvons pas sortir. Quand l'eau va baisser, va-t-elle baisser? Je n'en sais rien. Pour savoir ça, il faudrait savoir comment elle est venue. Et qui est-ce qui peut le dire? Puisque tu dis que c'est une inondation. Il n'y a qu'à attendre, dit le magister. Mais nous allons mourir de faim. La faim, on peut lui résister. J'ai lu que des ouvriers, surpris comme nous par les eaux dans une mine, étaient restés 24 jours sans manger. Il y a bien des années de cela. C'était du temps des guerres de religion. Mais ce serait hier, ce serait la même chose. Non, ce n'est pas la faim qui me fait peur. Qu'est-ce qui te tourmente puisque tu dis que les eaux ne peuvent pas monter? Combien de temps pouvons-nous vivre dans ces terres? Je n'en sais rien. Si j'étais un savant au lieu d'être un ignorant, je vous le dirais. Tandis que je ne le sais pas. Nous sommes à une quarantaine de mètres sous terre et probablement nous avons 35 ou 40 mètres d'eau au-dessous de nous. Cela veut dire que l'air subit une pression de 4 ou 5 atmosphères. Comment vit-on dans cet air comprimé? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Est-ce que nous allons apprendre à nos dépens, peut-être? Le magistère ne perdait pas la conscience de notre situation désespérée. Et quoiqu'il la vît nettement dans toute son horreur, il ne pensait qu'aux moyens à prendre pour organiser notre défense. « Maintenant, dit-il, il s'agit de nous arranger pour rester ici sans danger de rouler à l'eau. M'est avis que le mieux est de nous creuser des paliers comme dans un escalier. Nous sommes 7, sur 2 paliers nous pourrons tenir tous. 4 se placeront sur le premier, 3 sur le second. Avec quoi creuser ? Nous n'avons pas de pic. Avec nos crochets de lampe dans le poussier, avec nos couteaux dans les parties dures. Jamais nous ne pourrons. Ne dis donc pas cela, pagesse. Dans notre situation, on peut tout pour sauver sa vie. Si le sommeil prenait l'un de nous comme nous sommes en ce moment, celui-là serait perdu. Par son sang-froid et sa décision, le magistère avait pris sur nous une autorité qui d'instant en instant devenait plus puissante. C'est là ce qu'il y a de grand et de beau dans le courage. Il s'impose. D'instinct, nous sentions que sa force morale luttait contre la catastrophe qui avait anéanti la nôtre et nous attendions notre secours de cette force. Il serait évident que le creusement de ces 2 paliers était la première chose à faire. Il fallait nous établir, sinon comme démons, du moins de manière à ne pas rouler dans le gouffre qui était à nos pieds. 4 lampes étaient allumées. Elles donnaient assez de clarté pour nous guider. Alors on se mit au travail. Tous, nous avions des couteaux dans nos poches, de bons couteaux. Le manche solide, la lame résistante. 3 entameront la remontée, dit le magistère. Les 3 plus forts. Et les plus faibles, Rémi, Carori, Pagès et moi, nous rangerons les déblais. Le travail que nous avions à faire eût été des plus simples si nous avions eu des outils. Mais avec des couteaux, il était difficile et ne pouvait être que long. Il fallait en effet établir 2 paliers en les creusant dans le schiste. Et afin de n'être pas exposé à des vallées sur la pente de la remontée, il fallait que ces paliers fussent assez larges pour donner de la place à 4 d'entre nous sur l'un et à 3 sur l'autre. Ce fut pour obtenir ce résultat que ces travaux furent entrepris. 2 hommes creusaient le sol dans chaque chantier, et le 3e faisait descendre les morceaux de schiste. Le magistère, une lampe à la main, allait de l'un à l'autre chantier. En creusant, on trouva dans la poussière quelques morceaux de boisage qui avaient été ensevelis là, et qui furent très utiles pour retenir nos déblais et les empêcher de rouler jusqu'en bas. Après 3 heures de travail sans repos, nous avions creusé une planche sur laquelle nous pouvions nous asseoir. « Assez pour le moment, » commanda le magistère. « Plus tard, nous élargirons la planche de manière à pouvoir nous coucher. Il ne faut pas user inutilement nos forces, nous en aurons besoin. » On s'installa, le magistère, l'oncle Gaspard, Carori et moi, sur le palier inférieur, les 3 piqueurs sur le plus élevé. « Il faut ménager nos lampes, » dit le magistère. « Qu'on les éteigne donc et qu'on n'en laisse brûler qu'une. » Les ordres étaient exécutés au moment même où ils étaient transmis. On allait donc éteindre les lampes inutiles lorsque le magistère fit un signe pour qu'on s'arrêtât. « 1 minute, » dit-il. « Un courant d'air peut éteindre notre lampe. » Ce n'est guère probable, cependant il faut compter sur l'impossible. Qui est-ce qui a des allumettes pour la rallumer? Bien qu'il soit sévèrement défendu d'allumer du feu dans la mine, presque tous les ouvriers ont des allumettes dans leur poche. Aussi, comme il n'y avait pas là d'ingénieur pour constater l'infraction au règlement, à la demande « qui a des allumettes ?», quatre voix répondirent « moi ». « Moi aussi j'en ai », continua le magister, « mais elles sont mouillées ». C'était le cas des autres, car chacun avait des allumettes dans son pantalon, et nous avions trempé dans l'eau jusqu'à la poitrine et jusqu'aux épaules. Karori, qui avait la compréhension lente et la parole plus lente encore, répondit enfin « Moi aussi, j'ai des allumettes. Mouillées ? Je ne sais pas, elles sont dans mon bonnet. Alors passe ton bonnet !» Au lieu de passer son bonnet comme on le lui a demandé, un bonnet de loutre qui était gros comme un turban turc de foire, Karori nous passa une boîte d'allumettes. Grâce à la position qu'elles avaient occupée pendant notre immersion, elles avaient échappé à la noyade. « Maintenant, soufflez les lampes !» commanda le magister. Une seule lampe resta allumée qui éclaira à peine notre cage.